Nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Hébreux chapitre 11. Et mon texte aujourd'hui, c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et je voudrais vous parler de la foi définie. Comment est-ce que la Bible définit la foi? Ici, nous lisons dans Hébreux 11. Et le verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Alors, la foi a toujours été la marque, non seulement des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire même dans l'Ancien Testament, les prophètes et d'autres qui servaient le Seigneur, mais on peut dire de tous les élus de Dieu. La foi est la même pour tous ceux que Dieu lui-même a choisis et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde et a obtenu la rédemption éternelle à leur égard. La foi, c'est le don de Dieu. Dans l'Épître de Jude, il a décrit la foi de cette manière. Et lorsqu'on parle de la foi ici, il ne s'agit pas d'une croyance personnelle, mais plutôt de la révélation de Christ. Qui dit la foi dit Christ. Donc c'est la révélation de Christ au cœur de ceux que Dieu a choisi et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. C'est écrit dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, notons, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Cela veut dire « révéler aux saints » depuis Adam jusqu'à la fin des temps. La foi est l'œuvre de Dieu et la foi est la même substance, si vous voulez, ou bien comme c'est écrit ici, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, la foi et la révélation de l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu, par son Esprit, daigne régénérer, rendre à la vie un de ses élus. Nous sommes tous nés dans ce monde, morts en ce qui concerne nos esprits. Nous sommes morts jusqu'à ce que qu'il plaît à Dieu de nous donner l'Esprit et de nous révéler, de révéler Christ en nous. Donc, cette foi, c'est la révélation de l'Esprit de Dieu. Et la foi reçoit toujours la vérité. Donc, la foi est toujours en relation avec la vérité en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne son Fils, en ce qui concerne le salut qui est en Jésus-Christ. C'est le même objet que la foi a en ce qui concerne Christ et la manière que Dieu puisse être Dieu toutefois et toutefois justifier les pécheurs. Ce n'est pas que Dieu regarde ailleurs pour justifier qui que ce soit. Non, il faut que sa justice soit satisfaite d'abord. Et ensuite, il déclare juste ce pour qui cette justice a été satisfaite. Nous savons que donc la foi nous révèle les souffrances du Seigneur Jésus-Christ et les mérites de Christ. Oui, la foi en tant que telle n'a pas de mérite. La foi n'est pas le sauveur, mais la foi révèle celui qui est le sauveur. Et c'est lui qui est l'objet de cette espérance, comme c'est écrit ici dans Hébreux 11 et verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire tout ce que Dieu a promis à ses élus en ce qui concerne le salut. On espère au pardon du péché, on espère à la justification accomplie par Christ. Tout cela, on espère. Et donc, c'est la foi, notons, qui est cette ferme assurance. C'est une persuasion que l'Esprit de Dieu donne à ceux qui appartiennent à Christ. Donc, une ferme, une autre manière de comprendre cela dans le verset 1, une ferme conviction. Ce n'est pas simplement une préférence où je préfère aujourd'hui croire ce qui est révélé dans les Écritures, mais demain, je vais regarder ailleurs. Non, ici, c'est une ferme conviction. Et non seulement une conviction, mais une attente que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis en Jésus-Christ. Voilà où beaucoup prennent n'importe quelle partie de la Bible pour dire que, ah, voilà la promesse de Dieu pour moi. Mais toutes les promesses de Dieu révélées dans les Écritures sont en Jésus-Christ. Donc ces promesses appartiennent uniquement à ceux qui appartiennent à Christ par l'élection, la grâce et par la rédemption qu'il a accomplie à la croix et par la révélation de l'Esprit. Toutes ces promesses sont en Christ. Ce n'est pas quelque part dans un dépôt où des gens peuvent aller maintenant et puis retirer ce qu'il leur faut pour la foi. Non, c'est les promesses sont en Jésus-Christ. Et toutes ces promesses appartiennent à ceux que le Père lui a donné et pour qui il est venu dans ce monde. On peut dire quatrièmement aussi, en ce qui concerne la foi, c'est une persuasion qui est donnée à l'âme afin de profiter des choses, non seulement maintenant, mais ça nous donne cette assurance, c'est-à-dire c'est une réalité dans l'âme pour les choses qui sont encore à venir. Quand on parle de la vie éternelle, je n'ai jamais vu le ciel, je n'ai jamais vu moi-même Christ assis sur le trône de Dieu. Je n'ai pas vu dans le livre de vie mon nom écrit là. Alors, quelle espérance est-ce que j'ai que je peux croire maintenant que toutes ces choses promises à ceux qui sont à Christ sont les miennes? C'est en croyant à ce qui est écrit ici dans les Écritures, et c'est par la foi, encore, la révélation du Christ au cœur. Et c'est ainsi que j'ai cette persuasion. C'est une persuasion non pas seulement intellectuelle, mais c'est une persuasion donnée à l'âme afin de profiter maintenant des réalités de ces choses promises. Donc, ce que nous voyons ici dans le reste de ce chapitre que nous allons regarder ensemble, que chaque exemple de la foi que nous voyons ici est tiré de l'Ancien Testament. Ça parle d'abord de la foi d'Abel, par exemple, dans le verset 4, la foi d'Enoch, et puis la foi de Noé, la foi d'Abraham, etc., jusqu'à la fin. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est ici que nous voyons la foi révélée au saints une fois pour toutes. C'est pour nous dire qu'Abel, en ce qu'il a offert à Dieu, décrit dans le verset 4, avait le même objet de la foi que nous avons aujourd'hui. Quoique nous n'offrons plus d'offrande physique ou sacrifice d'animaux, mais lui, en offrant ses sacrifices, faisait cela en vue de ce que ces sacrifices représentaient, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, pourquoi nous n'offrons plus de tels sacrifices d'animaux? C'est parce que Christ est venu, selon tout ce qui était annoncé dans les prophètes et la loi. Il est venu et il a accompli tout ce qui était nécessaire à la satisfaction de la loi et la justice de Dieu. Donc, c'est ainsi que nous avons le même objet de la foi que ceux de l'Ancien Testament, d'Abel et d'Enoch et de Noé, d'Abraham, nous allons voir ça. Eux, ils regardaient par la foi révélée à celui qui devait venir et accomplir leur salut, le Seigneur Jésus. Nous regardons en arrière à celui qui est venu. Mais néanmoins, c'est le même objet de la foi. Et c'est pourquoi, ici dans ce chapitre, nous voyons la foi expliquée par de nombreux exemples de ces personnes dans les temps anciens, comme c'est écrit dans le verset 2, pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. De la part de qui? De la part de Dieu. Ils étaient les objets de la faveur, de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ils ont reçu ce témoignage favorable de Dieu, que Dieu les reconnaissait comme appartenant à lui, comme ses enfants, par la grâce, non pas par leur mérite. Nous ne devons pas retourner dans l'Ancien Testament et lire l'histoire de ces personnes qui sont mentionnées ici pour dire, ah, mais vraiment, ils étaient des hommes et des femmes exemplaires par leur obéissance et par leur manière de vivre. Non, ils étaient tous des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu, exactement comme qui que ce soit aujourd'hui. Nous sommes des pécheurs, mais sauvés par la grâce de Dieu. Vous ne voyez pas comment le chapitre 11 de cette épître aux Hébreux est une continuation de tout ce que nous avons vu jusque-là, particulièrement dans le chapitre 10, où nous avons pris le temps de regarder et voir comment Christ était l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament a révélé en ce qui concerne les types et les images, ce que nous voyons là, les sacrifices. Tout cela a été accompli en Christ. Et puis le chapitre 10 a terminé avec cette expression que nous avons vue la dernière fois dans le verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Et notons comment alors le chapitre 11 commence « Or la foi. » Donc qu'est-ce que le chapitre 11 fait si ce n'est de nous donner une continuation de cette foi, et lorsque c'est écrit « Mon juste vivra par la foi », c'est-à-dire celui que Dieu a justifié par l'œuvre de Christ, cette même foi qui représente Christ, c'est cette foi qui le préserve jusqu'au bout. Alors, c'est pourquoi nous avons maintenant le chapitre 11, tout un chapitre qui est donné ici dans les Écritures pour expliquer, pour définir cette foi biblique. Et comme je disais, ce n'est pas ici il ne s'agit pas d'une croyance personnelle. Quand quelqu'un vous demande, mais est-ce que vous avez la foi, mon frère? Pour ça, ils sont souvent en train de demander si vous avez vraiment en vous-même une croyance qui peut tenir, et tout dépend maintenant de vous, de tenir ferme jusqu'au bout. Ça, c'est la définition mondaine. C'est la définition de ceux qui sont dans la religion, qui ne connaissent pas la véritable foi. Si quelqu'un me demande, est-ce que j'ai la foi? Je dois répondre, par la grâce de Dieu, Christ est l'objet de cette foi. Et c'est à lui que je regarde. Je voudrais que nous voyons plusieurs références dans la Bible où, proprement dit, qui dit la foi dit Christ. Donc ici même, lorsque c'est écrit dans le verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » On peut placer là, à la place du mot « foi », Christ. Or Christ, la personne et l'œuvre de Christ, Christ est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tout le salut réside en lui et en ce qu'il a accompli pour sauver son peuple. Mais il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous montrent cette union entre la foi et Christ. C'est-à-dire, les deux sont les mêmes. Avoir la foi, c'est avoir Christ. Et c'est ainsi que plusieurs références de la Bible nous donnent ce lien. Par exemple, voyons quelques références ici. Galates chapitre 2, puis nous reviendrons encore ici dans Hébreux 11, mais en Galates chapitre 2, voilà ce qui est écrit ici. Et vous pouvez faire cela. Donc, même quand la Bible dit « Nous sommes justifiés par la foi », ce n'est pas notre croyance personnelle qui nous justifie, mais nous sommes justifiés par Christ. Nous devons insister là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est leur petite décision pour Christ. C'est leur volonté qui fait que Dieu les justifie maintenant. Et c'est ce qu'ils appellent justifier par la foi. Mais ça, ce n'est pas la foi biblique. Ici, par exemple, dans Galates chapitre 2 et le verset 20, c'est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Cela veut dire, lorsque Christ a été crucifié, ceux pour qui il est mort ont été crucifiés avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, lorsque Christ est ressuscité de la mort, nous étions aussi ressuscités avec lui, montés au ciel avec lui, dans sa personne. Aucun de nous à qui je parle maintenant, ne vivait à cette époque. Pourtant, cette œuvre a été accomplie pour nous et, je dois dire, malgré nous. Donc, nous sommes crucifiés avec lui. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'esprit du Christ qui le révèle au cœur. Et c'est en ce sens qu'il vit en nous. Mais ça continue. Si je vis maintenant dans la chair, notons, je vis dans la foi. Et malheureusement, ici dans cette traduction, c'est écrit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous pouvez changer cela pour dire, je vis dans la foi du Fils de Dieu. C'est comme ça que c'est dans le grec. Du Fils de Dieu. Ce n'est pas ma foi au Fils de Dieu, mais c'est la foi du Fils de Dieu. C'est la foi qui est en Jésus-Christ et révélé en moi. Et c'était qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors pourquoi je dis alors que nous pouvons transposer le mot foi ici par le mot Christ. Je vis vivre dans la foi du Fils de Dieu, c'est vivre en Christ. C'est vivre en celui qui est le Fils de Dieu. Et nous voyons ça, par exemple, dans Jean chapitre 6 et le verset 27. Quand nous comparons les Écritures avec les Écritures, c'est là que nous trouvons la véritable définition de ces mots de la foi. Dans Jean 6 et le verset 27, c'est écrit comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, notons, vivra par moi. Ici, dans Galates chapitre 2, le verset 20, ça nous explique que nous vivons par la foi. Et ici, dans Jean chapitre 6, le verset 57, vivre par Christ. C'est la même chose. Celui qui a la foi a Christ. C'est ce que je disais en ce qui concerne aussi notre justification devant Dieu. Et j'ai toute une liste de ces références si on avait le temps. On allait tout regarder, mais je voulais simplement vous donner quelques citations de ces versets pour nous montrer que vivre par la foi, c'est vivre par Christ. Comme nous avons vu dans Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Celui qui est juste, ou justifié devant Dieu, vivra par Christ, qui est l'objet de la foi. Dans Romains chapitre 3 et le verset 28, voilà une référence, et il y a beaucoup, qui parle que nous sommes justifiés par la foi, comme c'est écrit ici dans Romains 3 et le verset 8, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est-à-dire que aucun n'est justifié par une obéissance personnelle à la loi ou une obéissance qu'il puisse punir à Dieu pour que Dieu le justifie. Non, impossible. Parce que la loi exige la perfection. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes ou nous pensons, notre manière de lire ça, c'est nous savons que l'homme est justifié, déclaré juste par Christ. Justifié par la foi. La foi, là, c'est un nom qui signifie ce qui est en relation avec Christ et sa mort. C'est toujours cela. La véritable foi est toujours en relation avec Christ et son œuvre accomplie à la croix, révélée ici dans la parole de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ici, le terme est utilisé justifié par la foi. Mais quand nous regardons d'autres passages, par exemple dans le même épître de Paul aux Romains chapitre 5 et le verset 9, notons, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés, notons, par son sang. Ici, c'est écrit justifié par la foi dans Romains chapitre 3, le verset 28. Ici, Romains 5, 9, nous sommes justifiés par son sang. C'est la même chose. La foi, c'est la révélation de Christ et ce qu'il a accompli dans sa mort, par son sang. Alors, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons dans ces Écritures que la justification des pécheurs est uniquement par Christ et uniquement par sa mort. Avant la mort de Christ, aucun pécheur n'était encore justifié. comme on peut dire, avant la mort de Christ, aucun pécheur n'a été racheté. On peut peut-être se poser la question, alors quel était l'état de ceux de l'Ancien Testament? Ils sont morts attendant l'accomplissement de ce que Dieu leur avait révélé par la foi en ce qui concerne Christ. Je dis cela et nous allons voir ça à la fin de ce chapitre 11, lorsque nous y arriverons. En parlant de tous ceux de l'Ancien Testament, vous voyez dans le verset 39 et 40, Hébreux 11, 39, tous ceux-là, en parlant de ceux de l'Ancien Testament que nous allons voir, donnés comme exemple de la foi, c'est écrit à la foi desquels il a été rendu témoignage. Comment est-ce que ça a été rendu témoignage? Comme notre verset 2 le dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, Dieu a rendu ce témoignage d'eux. Ils étaient pourchassés des hommes et haïs de ceux de leur génération, comme au temps de Christ et comme nous aujourd'hui. Mais, en tout cela, c'est Dieu qui a rendu ce témoignage d'eux qu'ils étaient ses enfants par l'œuvre que Christ est venu accomplir. Ouais. Mais notons dans Hébreux 11, 39, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est-à-dire, ils sont tous morts avant de voir la réalisation de ce qui leur a été promis. Mais qu'est-ce qui leur a été promis? C'était le salut dans la personne et l'œuvre de Christ lorsqu'il est venu dans le monde. Mais au moment où ceux-là vivaient, Christ n'était pas encore venu. Mais cela ne veut pas dire qu'ils avaient alors un autre moyen de foi. Quand on lit dans l'Ancien Testament, lorsque ceux-là sont morts, le ciel n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament comme lieu où ceux qui sont morts en Christ, alors ils sont partis au ciel. Non, ils sont partis selon Éphésiens 2 au moment où Christ est monté au ciel. C'est là qu'il a pris avec lui tous ceux pour qui il est mort. Mais d'autres se demandent, alors où est-ce que ces hommes allaient en attendant? Ils allaient dans un lieu appelé la Géhenne. Sheol, c'est un autre mot que nous voyons utiliser. C'est un lieu de la mort. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, on se rappelle de l'histoire que Christ a donnée en ce qui concerne l'homme riche et Lazare. Et quand les deux sont morts, ils sont allés dans ce lieu-là en attendant, parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Mais il explique comment, même dans ce lieu, il y avait une grande séparation entre ceux qui sont morts sous la colère de Dieu et qui souffraient déjà comme l'homme riche, qui demandait à qui? À Abraham. Pourquoi Abraham était encore là? C'est parce que Abraham attendait exactement ce qui a été promis. Il attendait la mort de Christ et la résurrection pour qu'il puisse maintenant monter au ciel en même temps avec les autres. Mais il est mort sans avoir obtenu ce qui a été promis. Et continuons dans Hébreux 11, 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, c'est-à-dire pour nous qui lisons cela aujourd'hui, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. C'est pourquoi je disais c'était dans un même temps, un même lieu, un même sacrifice, un même sauveur que ceux de l'Ancien Testament et nous aujourd'hui qui sommes les élus de Dieu. Alors nous sommes tous parvenus à la perfection. Comment? Dans la mort de Jésus-Christ. C'est là la perfection. c'est dans sa mort. Alors, c'est pour nous montrer, revenant dans Hébreux chapitre 11, il n'y a pas deux messages. Je sais que nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau, mais les deux sont unis. Parce que l'Ancien Testament déclarait celui qui devait venir, et le Nouveau Testament déclare qu'il est venu. Mais c'est le même objet de la croix. C'est pourquoi les apôtres pouvaient prendre l'Ancien Testament, sortir et prêcher l'Évangile. Tout ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons pouvoir, quel que soit le passage, que ce soit dans l'Ancien, le Nouveau Testament, prêcher Christ. Nous n'entrons pas dans l'Ancien Testament pour prêcher la moralité ou bien une obéissance personnelle en essayant nous-mêmes de nous soumettre à la loi. La loi exige la perfection. Si vous prêchez la loi de cette manière, vous ne faites que condamner vos auditeurs. Il n'y a pas d'espérance dans la loi, mais c'est dans l'accomplissement de la loi. Et c'est pourquoi même Moïse instruisait les enfants d'Israël de son temps en disant que le Seigneur allait susciter un autre prophète comme lui. Et parmi eux, il a dit, écoutez-le. C'est lui qu'il faut écouter. Alors, revenant ici dans Hébreux chapitre 11, c'est dans le verset 1, comme je disais, que nous voyons la substance de la foi. Or, la foi, c'est un synonyme de cette expression, est une ferme assurance. Cela veut dire la foi a une substance qui est l'objet de ceux en qui cette foi est révélée, c'est cet objet qui est révélé. Alors, tout comme notre vue physique, lorsque nous voyons, nous jetons un coup d'œil en ce qui concerne ce monde, ses yeux voient des objets dans un monde matériel, mais ici, il s'agit d'un monde spirituel. Parce que la foi représente alors les yeux de l'âme, qu'une fois ouverts maintenant, regardent à un objet, quelque chose de substance. Et on peut dire que cette foi aussi engage tout notre être. Ce que nous pensons, cela veut dire notre manière de raisonner et ce que nous croyons, c'est cette foi révélée, c'est-à-dire Christ révélé, qui est l'objet de cette foi. Nulle part dans la Bible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent dans ce sens que il faut seulement avoir la foi, il faut seulement croire. Mais la Bible ne recommande jamais un saut aveugle, c'est-à-dire il faut sauter et puis, Dieu s'en occupera. Non, la foi engage tout notre être, notre raisonnement, notre volonté et nos désirs. C'est ce que la foi fait lorsque c'est Dieu qui révèle Christ en nous. Donc, c'est avec ce raisonnement que nous voyons même dans le verset 3, de chapitre 11, c'est par la foi que nous reconnaissons, le mot reconnaissons, de la même manière que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et encore, comme je disais, l'objet de la foi, c'est Christ. Donc, tout le long de ce chapitre, et encore d'ailleurs dans le reste de la Bible, là où vous voyez là, on peut substituer le nom de Christ. C'est par Christ que nous reconnaissons que le monde a été formé par Christ, parce qu'il est la parole de Dieu. Lorsque, au début, Dieu a dit, dans Genèse chapitre 1 et le verset 1, que le monde soit et que le monde a été créé. Ouais, Genèse chapitre 1 et le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous pouvons mettre là, au commencement, Christ créa les cieux et la terre. Parce que c'est à travers Christ que Dieu a créé le monde. Je n'étais pas là, vous n'étiez pas là non plus. Mais quand nous arrivons dans l'épître aux Jean, c'est exactement ce que Jean dit. Au commencement était la parole. C'est pourquoi je disais ici, dans le chapitre 3, quand c'est écrit que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, formé par Christ, parce qu'il était celui par qui le monde a été créé. C'est écrit encore Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et notons verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, on peut peut-être poser la question, mais pourquoi, en parlant de la croix, on retourne maintenant pour décrire comment le monde a été créé? L'explication est donnée à la fin du verset 3, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses quoi visibles. La foi ne dépend pas de choses visibles. Personnellement, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus Christ en personne encore, mais je crois tout ce que les Écritures disent. Pour moi, il est encore invisible, mais même en tant que qu'invisible à mes yeux, néanmoins par la foi, je peux appréhender qui il est, sa personne. C'est pourquoi cela est utilisé en parlant de la création du monde. Je sais qu'il y a des gens qui en doutent que le monde a été créé par Dieu, mais la même foi qui croit à ce que les Écritures disent au sujet de la manière que le monde a été créé par Christ, comme nous venons de lire, c'est cette même foi donnée qui nous donne cette assurance dans le verset 1. Ce n'est pas à moi d'assurer les gens qui sont enfants de Dieu, non. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Nous prêchons l'Évangile, nous l'annonçons, nous sémons, mais ce qui est écrit, et c'est à l'Esprit maintenant de révéler Christ au cœur afin que cette foi qui a pour objet le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme je disais, ce n'est pas simplement un sceau aveugle, mais lisant et voyant ce que la Bible dit au sujet du Christ, je crois selon ce que l'Esprit me donne cette révélation de Christ, et c'est lui alors qui est devenu mon assurance, ma conviction, ma persuasion que tout ce qui est écrit de lui est vrai. Mais je voulais simplement dire que la foi ne contredit pas la raison. C'est pourquoi nous prenons le temps de lire la parole et de prêcher verset par verset. D'abord, nous sommes en train de prêcher au raisonnement des gens, parce que ça commence par là. Si Dieu n'ouvre pas le raisonnement des gens, ils ne connaîtront jamais Christ. Mais ça ne reste pas simplement dans ce domaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appréhendé, ils ont reçu certaines informations au sujet de l'Évangile, mais jusque-là, Christ n'est pas révélé dans leur cœur. Et je parle des gens qui peuvent bien citer beaucoup de ce que nous croyons, que Dieu est souverain, et que les hommes sont pécheurs dépravés, et que seulement le sang du Christ justifie les pécheurs, tout cela, ceux-là peuvent, ils ont raisonné, c'est logique dans leur esprit, dans leur raisonnement, mais jusque-là, Christ n'est pas révélé à eux. La foi ne contredit pas la raison, mais en même temps, on doit dire que la foi n'est pas simplement le raisonnement. Il faut que Christ soit révélé. Donc la foi, dans ce sens, va au-delà de la raison. Et c'est la révélation de Christ dans le cœur. Mais deuxièmement, nous avons pris presque tout ce temps simplement à définir la foi et à voir comment, quelle est la substance, quelle est cette assurance de la foi. Dans le verset 2, c'est là que nous voyons l'œuvre de la foi. Parce que là où la foi est révélée, cette foi œuvre, c'est cette foi en nous. C'est par Christ en nous que nous vivons. Et c'est ainsi que nous voyons cela expliqué, que c'est pour l'avoir possédé. En parlant de ceux de l'Ancien Testament, les anciens l'ont obtenu, possédé. C'est-à-dire, ce n'était pas encore réalisé parce qu'il s'agissait d'un sauveur qui devait venir, mais néanmoins, il possédait cette foi comme un témoignage que la parole était vraie et ce que Dieu a révélé en eux était vrai et allait se réaliser. Ça, c'est la foi qui leur a été donné. Donc, c'est ça l'œuvre de la foi. Ça agit de la même manière en tous ceux en qui Christ est révélé. Dans Hébreux chapitre 6, nous voyons que cette foi qui est donnée, c'est comme une pluie qui tombe sur un sol fertile. Et c'est ça qui fait la différence dans Hébreux chapitre 6. C'était en train de décrire la différence entre ceux qui ont obtenu la foi et ceux qui sont, comme c'est écrit dans le verset 7, une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Et participe à la bénédiction de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Mais en contraste, nous voyons dans le verset 8, cette même pluie, ce même message de Christ et Christ crucifié qui tombe sur des épines. C'est écrit, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Vous dites que nous prêchons à beaucoup de gens qui sont comme ça. Nous ne savons pas si vraiment ils sont élus ou pas, mais nous continuons à prêcher, la pluie continue à arroser. Mais si ça ne produit pas dans l'âme cet effet de regarder à Christ et avoir cette persuasion en Christ, on peut simplement conclure une seule chose, c'est que ce sont des gens réprouvés. Donc ça, c'est l'œuvre de la foi dans Hébreux 11, verset 2. Afin que ceux à qui cette foi est destinée possèdent cette foi, comme ceux, les anciens qui ont obtenu ce témoignage favorable de Dieu. Même, la même manière, comme je disais, que nous sommes, ceux qui sont à Dieu aujourd'hui sont les objets de sa foi, de sa grâce, la même chose pour ceux de l'Ancien Testament. Et puis, dans le verset 3, nous avons déjà touché à cela, c'est là que nous voyons la compréhension de la foi. À quoi est-ce qu'on peut comparer la foi? C'est comme ça a été dit, celui qui croit la manière que le monde a été créé par la même puissance de Dieu et par le même Christ, ce qui est vrai dans la création du monde et aussi vrai dans la création du monde spirituel, de la vie spirituelle, que c'est à travers le même Christ que nous arrivons à être en Christ. Alors, j'espère que cela nous aide à comprendre un peu mieux la foi. Nous allons continuer tout ce chapitre dédié à ce qui est la foi et donner dans l'exemple de ces anciens qui ont obtenu ce témoignage favorable. Donc ma prière, c'est que Christ soit de nouveau révélé dans nos cœurs et nous puissions nous réjouir en lui. Amen.